Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Ça va, messieurs ?
Ça va.
Tout va bien ? Vous êtes contents d'être là ?
Nickel.
Eh ben parfait, superbe. On remercie nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent, toujours de plus en plus nombreux, donc ça fait hyper plaisir. Merci également à nos patriotes qui nous soutiennent sur Patreon. C'est important de donner des sous à Fin du Game pour qu'on puisse investir le temps et l'énergie pour préparer cette émission qui nous prend beaucoup de temps et le rythme de toutes les deux semaines est quand même assez intense. Et du coup...
Oh, dis non, donc, alors, les transitions ce matin.
Non, en vrai, c'est pas pour ça. Oui, petite info avant qu'on commence, c'est que le prochain épisode, donc après celui-ci, ne sera pas dans deux semaines, mais dans trois semaines, tout simplement parce que sinon, ça aurait fait qu'au mois de novembre, on aurait eu trois épisodes. Et
comme on facture en fait les gens sur Patreon
exactement.
Par épisode, implicitement, on a toujours dit que le deal, c'était deux par mois. Mm. Mais bon, le calendrier étant ce qu'il est, une ou deux fois par an, il y aura un moment où il y aura en fait trois vendredis.
Au solstice d'été,
oui, voilà,
la lueur.
Non mais voilà, deux ans certains, ça va arriver. La prochaine fois, ça sera à la transition entre décembre et janvier. Et nous, ça nous permettra de souffler un petit peu parce que, comme tu le disais, c'est vraiment un rythme qui est sans cesse en fait. Hein. On est tout le temps en train de penser à Fin du Game parce que la semaine d'avant l'enregistrement, on se réunit déjà une ou deux fois. On fait entre 4 et 5 heures de réunion. La veille de l'enregistrement, le lundi traditionnellement,
enfin, gros point, hein.
On fait un énorme point l'après-midi. Le matin même, le mardi pour l'enregistrement, on raconte n'importe quoi pendant une heure ou deux histoire de. Là, on a refait d'ailleurs un enregistrement parce qu'on avait à peu
oui,
près
là,
une demi-heure de podcast. On n'en était pas content, donc on s'est dit, on recommence. Donc ça prend énormément de temps la préparation. Hein. C'est pour ça qu'on avait lancé le Patreon au tout départ. Il faut aussi faire les jeux, regarder des choses de l'autre côté.
Les recherches et tout, sans
donc,
compter ça.
Voilà, c'est du vrai travail, mais on est très content puisque on avance tranquillement sur le Patreon. Ça marche de mieux en mieux. Donc merci beaucoup pour votre confiance.
Exactement, on remercie également Third Edition, donc notre sponsor, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Voilà, on le dit à chaque fois, qui viennent d'annoncer un livre sur The Leftovers, qui est une série qui était sortie, je crois que c'est HBO à mon avis.
Je sais pas.
Je suis plus sûr.
Tiens, je vais pas sûr du tout.
Peut-être me lancer là-dedans, mais donc une série qui était sortie, apparemment, j'imagine qu'ils vont se lancer dans les bouquins sur les séries. C'est vrai qu'il y a pas mal d'œuvres qui ont vraiment marqué la télévision, je pense évidemment à Breaking Bad, je pense à The Wire, je pense aux Sopranos, donc à mon avis
c'est ça, ils viennent de s'ouvrir en fait l'horizon,
ce futur-là,
parce que comme ils sont quand même ils sont pas sur une ligne édito full jeu vidéo, ils sont plutôt sur culture geek, hein, on l'avait vu dès qu'ils ont commencé à parler du cinématique univers là, de Marvel, des super-héros, etc. Je pense qu'ils veulent simplement avoir un regard un peu analytique, mais qui reste un peu grand public, tu sais, c'est un peu ce côté culturel.
Oui, ils ont leur formule, qu'ils ont bien,
très pop culture,
ils ont bien
très
étayé
geek.
sur le jeu vidéo, et qui peuvent du coup étendre. Sur les
et à mon avis, là, je pense que c'est Sylvain qui avait fait le bouquin sur Dark Souls, il doit être juste très fan de The Leftovers, et il a dû leur proposer d'en parler, et ils ont dû se dire, c'est bien, c'est pas mal de commencer peut-être par une série, parce que c'est vrai que si tu commençais directement par des monuments, style Sopranos, The Wire, la pression serait différente, mais j'imagine qu'on pourra s'attendre à ce genre de livre dans le futur, donc c'est plutôt cool, parce que c'est des. Moi, je suis très sérivore, donc effectivement, ça me parle, tu vois, naturellement, je suis plutôt client.
Donc voilà, si ça vous parle aussi, vous pouvez aller voir ça sur leur site, et puis voilà, on les remercie encore une fois pour ce petit coup de pouce qu'ils nous donnent, et qui nous permettent encore une fois, là aussi, de pouvoir être un peu plus serein dans la production du podcast. Tout est dit, je crois, j'ai bien prévenu que c'était dans trois semaines le prochain épisode. On va pouvoir commencer à parler de jeux vidéo avec Hyper Light Drifter. Je le dis une fois avec l'accent anglais avant de repasser à un français franglais dégueulasse, comme on sait si bien le faire dans Fin du Game. Et puis, Maxime va nous envoyer une petite musique et on y va. Hyper Light Drifter, donc, qui est sorti le 31 mars 2016 sur PC, qui est sorti quelques mois après sur PS4, Xbox One, et puis qui est évidemment sorti sur Switch, la meilleure console pour jouer à des indés. Je ne suis pas payé par Nintendo pour le dire, je le pense. Et puis, évidemment, il est aussi sorti, enfin, évidemment, ça peut être surprenant, il est sorti aussi sur iOS. Là, je ne sais pas si les contrôles sont aussi agréables qu'avec une manette, j'en doute, mais voilà, il est sorti sur iOS.
De toute façon, c'est devenu maintenant... Alors, à l'époque où il est sorti, non, mais là, il faut bien se préparer maintenant, depuis qu'ils ont le système d'Apple Arcade, hein, iOS, ils vont prendre une, on va rentrer vraiment dans une nouvelle ère, hein, je pense, du jeu vidéo sur mobile. Ils vont enfin pouvoir donner de la place à ce qu'on appelait les jeux premium, c'est-à-dire des jeux payants, et par opposition aux jeux free-to-play. On l'a vu hein, avec tous les jeux là, qui sont sortis dans l'Apple Arcade. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas déconnant de sortir des jeux comme Hyper Light Drifter dessus. Donc voilà.
Pour l'anecdote, il me semble qu'il y a un petit équilibrage qui est fait au niveau de la vie. Je crois que t'as peut-être un point de vie de plus, t'en prends peut-être un peu moins. Voilà.
Oui, c'est intéressant parce que de toute façon, là, sur la manipulation,
il y a peut-être une aide à la visée.
Vu l'exigence d'Hyper Light Drifter, on en reparlera, mais c'est vrai que sur iOS, ça doit être compliqué. Donc, qui est sorti en 2016, je l'ai dit, qui avait été kickstarté à la base, puisque c'était ça a été lancé en 2013 par Alex Preston, qui fondait juste son studio, qui s'appelle Heart Machine. Alors, Heart Machine, pour la petite histoire, c'est parce que Alex Preston, c'est quelqu'un qui a une maladie congénitale du cœur et qui souffre d'autres maux que je ne saurais nommer. Je sais qu'il a des problèmes d'auto-immune, de choses comme ça, et c'est quelqu'un qui passe donc beaucoup de temps dans les hôpitaux et à prendre des médocs. Et c'est vrai qu'il a voulu nommer son studio par rapport à cette histoire d'avoir toujours son cœur un peu branché à plein de machines, donc Heart Machine. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout un background vidéoludique, attention,
c'est pas le dit
background
paysage,
vidéoludique,
c'est bon.
Ouais, ouais. Ça passe. Qui faisait pas du jeu de vidéo avant puisqu'il était illustrateur, et en fait il a prototypé ce jeu avec Beau Blith. Voilà, je le prononce.
J'adore ce prénom, Beau. Je trouve ça incroyable qu'ils aient gardé ça, les Anglais, tu vois. Voilà. Si jamais il y a des gens qui font des linguistes qui nous écoutent, si vous avez l'origine de ce prénom, voilà.
Parce que c'est Beau qui s'écrit vraiment B E A U.
Oui, c'est ça. Donc voilà, vous venez sur notre Discord, on en parlera. moi, ça me fascine. Petite anecdote.
Pour parler de linguistique. Et donc Beau qui était le créateur de Samurai Gun. Alors je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent. C'était un espèce de petit brawler. C'est sorti un peu en même temps que Towerfall Ascension, et dans le même style, c'était des espèces de duels comme ça en 2D. On avait deux petits personnages qui pouvaient soit se slasher avec des épées, soit se tirer dessus, Samurai Gun, et avec un seul point de vie. Donc c'était des combats qui étaient extrêmement dynamiques, extrêmement avec un game feel très prononcé, et c'est quelque chose qu'on retrouvera sur Hyper Light Drifter. Donc ils ont prototypé ce truc là, ils ont lancé le Kickstarter, ils demandaient 27 000 $, ce qui est ridicule, je pense on peut le dire, par rapport aux besoins de financement que peut avoir un jeu vidéo sur toute cette ampleur là. Alors je pense qu'à la base ils n'avaient pas non plus prévu tout ce qu'ils ont fait depuis, mais voilà, même 27 000 $ en Californie, c'est ridicule, je pense qu'on peut le dire.
Déjà en France, c'est le montant d'un salaire moyen brut annuel, hein, tu vois, un SMIC
à
l'année,
oui,
ça te coûte 26 ou 27
ouais,
000 euros.
Ça, c'est ça.
Donc aux États-Unis, sachant qu'il faut multiplier ça par 2,5 à peu près pour avoir un salaire moyen, effectivement, c'est des sommes qui sont toujours très très faibles. Hein. On le dit régulièrement, mais Kickstarter, on demande toujours qu'une fraction de ce que ça coûte. Le jeu, au final, il a dû coûter plusieurs millions, donc ils ont dû obtenir...
Alors, ils ont obtenu au final quand même plus de 600 000 $, donc c'est déjà un peu plus, mais encore une fois, ouais, comme tu le dis, c'est même pas ce qu'il faut pour faire un jeu de cette ampleur-là, en tout cas avec le résultat qu'on connaît. On sait que 600 000 en Californie, non, tu sors pas un jeu comme ça, en tout cas pas dans un milieu plus traditionnel.
Ils étaient une dizaine
en
tout, hein. Alors évidemment, ils étaient pas 10 tout le temps. Il y a une conférence de Akash Takar, qui est le sound designer, qui expliquait que avec les personnes qui viennent ponctuellement donner un coup de main pour fabriquer des assets visuels ou faire un peu de programmation ou ceci, ils étaient en tout une dizaine, on and off, quoi. Et bah forcément, tu vois, 600 000 $, c'est évidemment pas suffisant, sachant que ce n'est pas de l'argent gratuit, comme dirait Max. J'adore
comme
cette expression.
Dans la première version.
Oui, voilà. Non, mais je te repique cette expression parce qu'elle était très bien. Il y a déjà une partie qui repart à Kickstarter, il y a une partie qui va dans les taxes, il y a une partie qui va dans tout ce qui est contrepartie physique, etc. Donc en vrai, ils doivent toucher à peu près, on va dire, 60-70% de la somme qui est indiquée sur le Kickstarter. Donc derrière, bah, il faut qu'ils aillent chercher des sous à la main, quoi. Mais bon, j'imagine qu'ils ont dû avoir des investisseurs, des prêts, ce genre de choses.
Oui,
quoi.
T'as d'autres fonds pour les indés, t'as le Indie Fund, t'as des choses comme ça, donc tu peux trouver d'autres moyens de financer ton jeu, même si bah, après, comme dans beaucoup de cas de figure, c'est des gens, bah voilà, j'imagine qu'ils étaient dans un grand appart, on fait un peu la cascade, tu vois, sur les coûts pour réduire un petit peu tout ça, et puis bah, j'imagine qu'on mange des nouilles aussi, tout simplement, hein, ça on connaît, les indépendants pendant, on les connaît. Et ils ont été rejoints, en fait, dès qu'il y a eu le Kickstarter, qui a commencé vraiment à exploser. Il y a Teddy Diff qui les a rejoints, donc qui était quelqu'un qui avait déjà une place assez importante dans le milieu du jeu vidéo indépendant, surtout en Californie. C'est quelqu'un qui a fait du narrative design, de la programmation, et qui avait déjà une présence médiatique assez... assez forte, puisqu'il donnait déjà des conférences, des choses comme ça. Donc ça, c'est une des personnes clés, on va dire, dans le game design d'Hyper Light Drifter. Et puis, il y a d'autres personnes que je connais pas forcément, mais on peut les citer quand même. Il y a Casey Hunt, qui a travaillé au narrative design, Sean Ward. Et puis, tu parlais de Akash Takarosan Design, qui a collaboré avec Disaster Piece, qui est notamment, qui à l'époque était vraiment connu pour son travail sur Fez, puisqu'il était le compositeur de Fez. Des petits bip bip, des petits trucs comme ça.
Des petits bip bip, ça, c'est plutôt C418 dans Minecraft.
Non, en plus c'est pas du tout ça. Oui, c'est plutôt des synthés, des nappes, des choses comme ça.
Ouais, c'est vraiment des musiques éthérées, d'ambiance. Ambiant, voilà, c'est ça. Ça fait un peu 2001. Tu vois, ça fait vraiment des. De toute façon, la musique de Fez et même au niveau visuel, hein, Fez et Hyper Light Drifter, t'as quand même. Tu sens bien qu'au niveau, ouais. C'est un peu la même école de pixel art. Hein, donc c'est pas choquant qu'ils se retrouvent là.
Oui, le pixel art d'ailleurs, on peut le dire, c'était quand même vraiment l'arme de communication principale pendant le Kickstarter, qui avait vraiment quand même mis des claques à tout le monde, parce qu'il y avait déjà un soin et en fait un espèce de niveau de détail sur pixel art qui a pu permettre au jeu en 2013 quand même de se différencier et de sortir un peu la tête de l'eau dans Kickstarter et de se faire remarquer.
Oui, c'est ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, mais quand tu communiques, forcément si t'as une DA qui claque, ouais. Ça fait la différence. Hein. Je pense qu'on en parlait pour Hollow Knight, qui est clairement dans le même cas. On remarque aussi quand même, quand on regarde un peu le trailer de 2013, entre ça et le résultat, il n'y a pas une différence énorme sur la DA, moi j'ai trouvé en tout cas, mais on voit que sur le gameplay ça a quand même bien
oui, sur les animations et compagnie,
ouais. Et il y a même des passages qui sont pas du tout dans le jeu, il y a un moment où on contrôle un robot, c'est des choses qui ont complètement disparu, donc j'imagine que les ambitions autour du jeu ont évolué, déjà avec le succès, ça leur a permis de remettre les choses au clair.
Sachant qu'il était prévu à la base pour 2014, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils allaient mettre un an pour le faire, au final ils en ont mis trois. Alors évidemment, les problèmes de santé de Alex ont forcément joué dans l'eau, puisqu'il a eu plusieurs...
Il a été opéré,
hospitalisations pendant le développement, mais forcément, je pense aussi ils sont aussi laissés un peu avoir par la création de jeux vidéo, tout simplement, qui est toujours beaucoup plus long, beaucoup plus chronophage que ce qu'on espère toujours au début, quoi.
Et puis par l'argent du Kickstarter, quand ils demandaient 27 000 à la base, même si comme on l'a dit, c'était quasiment rien, ils sont passés de quasiment rien à pas tant que ça mais ils ont quand même revu complètement le scope du jeu.
La copie, ouais.
Alex Preston, à une interview, il disait que s'ils n'avaient pas eu autant d'argent, ce serait juste lui, Beau et Disaster Piece, et Hyper Light Drifter serait très différent. Il peut pas dire évidemment ce que ce serait, mais ce serait pas le même jeu, quoi.
Ouais, tout à fait. Il est sorti donc en 2016, je l'ai dit, il a eu quand même un bon succès critique, il est sorti à 84 sur Metacritic, donc c'est quand même un joli score. Les ventes n'ont pas été mauvaises, c'est pas non plus un triple million seller comme, je sais pas, des Darkest Dungeon ou des Dead Cells, des jeux qui ont vraiment complètement pété les scores, mais il s'est quand même très bien vendu pour le projet, puisqu'il a dû au moins dépasser la 500 000 ventes rien que sur Steam, et après, effectivement, avec toutes les sorties successives sur console qui ont dû augmenter à chaque fois un petit peu le nombre, et puis il a été offert évidemment récemment sur l'Epic Game Store
grâce à nous
puisqu'on avait décidé d'en parler, vous le savez, vous pouvez nous remercier.
Mais du coup, c'est forcément là, juste avec l'arrivée dans l'Epic Game Store, d'un coup, c'est quelques millions qui ont été injectés dans leur studio, donc ça leur permettra de bosser encore plus sur leur prochain jeu.
Oui, qui lui, du coup, va être... Et donc, c'est Solar Ash Kingdom, qui sera... ils ont signé avec Annapurna Interactive, et Annapurna qui est en deal avec l'Epic Game Store, donc j'imagine qu'effectivement, Epic a dû mettre... Il y avait dans le contrat, on vous donne des sous aussi pour le financement du nouveau jeu, et en même temps, on récupère une petite...
De toute façon, c'est ça le deal. Ils ont récupéré l'intégralité du catalogue Annapurna. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir Journey. Donc, maintenant, on sait que tous les jeux Annapurna, à l'avenir, la maison des Gotti, comme je les appelle désormais, parce que maintenant qu'ils ont fait Outer Wilds, Edith Finch, etc., c'est mes copains. Je comprends ton amour pour ce studio-là, Hugo. Et du coup, on sait qu'on aura Solar Ash Kingdom qui va arriver dessus. Donc, j'imagine qu'ils vont pouvoir également être beaucoup plus tranquilles au niveau du dev. Mais bon, c'est un jeu qui, pour l'instant, se fait très discret. Je pense que
on a eu un trailer il y a quand même quasiment un an, je crois.
Ouais, ça fait quelques temps.
Et là, vraiment zéro news. Et c'est vrai qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Si ce n'est qu'on est passé du. Oui, c'était pas plus mal effectivement. On attendra, on verra bien quand ça sortira. Je pense que de toute façon là, il faut qu'il. On est dans une espèce de phase de transition. Vaut mieux qu'ils profitent de, tu sais, d'une sortie sur PS5 ou des choses comme ça, de profiter du launch des prochaines consoles pour vraiment pouvoir avoir des, tu sais, des stores un peu épurés. Comme chaque nouvelle console, hop, t'as des stores un peu épurés, donc ça permet de te faire marquer. Donc ça peut être un bon plan pour eux. Mais on va revenir sur Hyper Light Drifter. Je crois qu'on a fait le tour au niveau du contexte.
On développera quelques petits trucs parce qu'il y a des choses intéressantes
à revenir
sur le Kickstarter. Mais voilà, pour déjà bien présenter, c'était déjà massif comme introduction.
Comme d'habitude, donc on va passer sur l'histoire qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas simple, puisque bah, c'est un jeu qui est... alors on disait, la première fois qu'on a enregistré, on disait cryptique, on disait avare, parce qu'il n'est pas si cryptique que ça, mais il nous donne très très peu d'informations. Il n'y a pas de mots, il y a zéro mot dans le jeu. Alors, fun fact, il y en a quand même dans le tuto, puisqu'on te dit, voilà, tu as le droit d'appuyer sur A, mais c'est une vraie histoire, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté vraiment au tout dernier mois de développement, parce qu'ils se rendaient compte, bah, quasi, ils n'arrivaient pas à faire un tuto correct. Sans te dire appuie sur A pour dasher. Et malheureusement, bon, c'est vrai qu'ils ont dû faire cette petite concession là. Mais pour tout ce qui est la narration, l'histoire, ça ne fonctionne que par des images, donc des espèces de petites vignettes et
beaucoup d'observations en fait.
Voilà, du storytelling environnemental, de la narration environnementale. Et donc, c'est pas forcément simple, surtout que c'est un jeu qui, un peu façon. Dark Souls, allez, c'est bon, je le dis, je l'ai droppé. Mais finalement, toute l'histoire s'est passée avant que nous on arrive. C'est-à-dire que la majorité de l'histoire du jeu s'est faite avant qu'on arrive.
Ouais, et comme tu le disais, alors il n'y a pas de mots, mais il y a quelques stèles qui sont cachées dans le jeu qui, elles, ont un alphabet.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Et on peut décrypter nous-mêmes quelques messages. Et là, pour le coup, c'est un peu cryptique quand même. c'est pas hyper, hyper clair. Mais bon, de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a fort longtemps, il y a eu des titans qui ont un peu disparu comme ils sont arrivés. Ensuite, on a eu différents peuples animaux en fonction des zones, on reviendra en détail là-dessus plus tard, qui se sont associés pour créer une sorte de source d'énergie, un petit peu l'espèce de gros fluo qu'on peut voir, et qui ont voulu créer ce qui s'appelait la cellule immortelle, quelque chose qui donnerait donc l'immortalité. Ça a capoté, ça a appelé une espèce d'entité qui s'appelle le Judgment. Donc ça, on le sait parce que c'est le nom qu'il y a sur la carte Steam.
Oui, la carte Steam. Alors Judgment, c'est vraiment l'espèce de figure noire avec cette espèce d'œil rose au milieu qu'on voit vraiment dans l'intro du jeu, l'espèce de bestiole cornue qui se trouve être le boss final du jeu, puisqu'on le rappelle, hein, on spoil fin du game. Mais donc voilà, c'est ça, Judgment est appelé comme ça. Mais oui, c'est grâce à la carte Steam. Sinon, on aurait pu l'appeler, Satanos.
Le méchant.
Ouais. Le méchant.
C'est ça. Et du coup. Donc la cellule immortelle a été enfermée hors de portée du fameux Judgment, qui a quand même s'est accaparé donc cette fameuse énergie pour réanimer les titans qu'il a envoyés dans chaque zone. Et il y a eu un combat du coup entre les animaux, les titans, et ça on voit un peu les vestiges, hein, de toute façon quand on le traverse on comprend avec certains dialogues entre guillemets, mais on le voit beaucoup. Du coup nous on arrive un petit peu après toutes ces terres où il y a à peu près autant de morts que de vivants.
Je pense qu'il y a plus de morts que de vivants, parce qu'il n'y a plus grand monde.
Il n'y a plus grand monde, mais du coup il y a des nouveaux qui sont arrivés, mais qui tuent ceux qui restent, du coup c'est effectivement un peu compliqué de compter les scores.
Oui, chaque zone en fait, il y a vraiment, de toute façon le jeu il est découpé en 4 zones, chaque zone a son peuple, et il se passe dans chaque endroit une petite merdouille qui est finalement liée au cataclysme qui s'est passé avec les titans. Il y a les histoires des cristaux qui sont à l'ouest, où c'était une espèce de façon de se...
C'était une énergie.
C'était une énergie pour se défendre contre les titans, et là aussi ça a capoté, et ça a aussi corrompu un petit peu la zone. Il y a à l'est l'histoire des crapauds qui se font un petit génocide comme ça au calme.
Qui tuent les loutres.
Voilà. Et puis au nord, il y a une espèce de fanatisme un peu religieux d'une partie des vautours ou je sais pas quoi. Et voilà, là aussi, toutes les périodes.
Et au sud, c'est qui du coup
Alors, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de peuple.
Pas vraiment de peuple.
Ouais,
on sait que c'était le peuple des lézards. Et en fait, dans le sous-sol, tu vois que ça fabrique énormément de robots, mais aussi de la vie organique.
Ouais, donc eux, ils ont complètement disparu, ce truc-là.
Quasiment.
Ouais. Et il y a une zone centrale, donc qui est un village dans lequel on commence. Et de là, on nous dit, en fait, ça pour le coup, c'est très bien expliqué. On voit, il y a un énorme carré au sol, il y a 4 carrés autour. Dans chaque zone, il y a des carrés à récupérer. Tu récupères tes carrés, ça ouvre la porte, boss de fin, crédit. Et voilà.
Merci, au revoir.
Voilà. Non, mais ça, pour le coup, la progression, elle est extrêmement claire. Par contre, comme le disait Max, dès que tu vas commencer à t'éloigner, tu vas trouver ces fameuses stèles. Et en réalité, il y a des tonnes de choses qui sont cachées. Et s'il n'avait pas fait l'effort, Max, de nous expliquer tout ça, moi, j'étais passé complètement à côté de à peu près toute l'histoire du jeu. Hein.
C'est vrai que ces stèles, moi, pendant le jeu, tu sais, je les activais, donc je disais... Ok, très bien, mais c'est bien après que j'ai appris qu'effectivement on pouvait traduire l'alphabet et qu'il y avait vraiment des choses qui étaient marquées dessus. Et encore, quand tu traduis le texte des stèles, c'est vraiment un texte un peu prophétique où tu peux pas en tirer énormément de choses si ce n'est que cette espèce d'histoire de cellules immortelles, de création, ouais. Cette espèce de.
Ouais, t'as des infos là-dessus. Mais de toute façon, leur alphabet il est bizarre parce qu'il y a des lettres qui ont le même symbole en fait. Ouais. Il peut y avoir 3 ou 4 lettres qui partagent un seul et même symbole, donc ils ont dû quand même beaucoup tâtonner sur les wikis. Donc c'est pour ça aussi l'intérêt, tu vois, du parler du jeu quelques années après. C'est ouais. Que maintenant ça y est, ils se sont entendus, on a quand même pas mal d'infos, on reste évidemment dans l'interprétation, donc il n'y a pas de réponse claire sur qu'est-ce que c'était l'histoire, mais par contre toutes les différentes vidéos d'analyse ou les infos qu'on a pu lire sur les stèles etc nous permettent quand même d'avoir une idée. On est dans le post-apocalyptique,
ouais, voilà, totalement, c'est ça.
Il y a eu un premier cataclysme avec la création originale des titans, un deuxième cataclysme avec l'attaque par les titans à cause de Judgment,
attaque de Titan,
ouais, j'ai failli le faire mais je me suis dit bon. À cause des titans, tu vois, sinon, ouais.
Et je ne vous ferai pas l'affront de chanter le générique.
Bah non. Bah, ou alors, on va mettre un nouveau palier sur le Patreon pour faire un générique chanté au début. Ah, ça serait pas mal. Et donc, nous, on arrive en fait encore beaucoup plus tard. Parce que tu dis, c'est un peu après. Bah non, parce que quand on voit les titans dans le décor, ils ont de la mousse par-dessus. Il y a la végétation qui a repris ses droits. Enfin, en temps terrestre, on pourrait dire qu'il s'est passé des centaines, voire des milliers d'années, quoi.
Et donc on va parcourir tout ce monde-là, on va finalement résoudre les problèmes par la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire la violence. On va tuer chacun des boss dans toutes les zones et notre personnage donc va atteindre, en ouvrant cette espèce de porte centrale qu'il y a dans le village au milieu, on va atteindre donc le fond du puits et on va pouvoir retrouver cette espèce de cellule immortelle. On va affronter le boss. Alors est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est vraiment dans le monde physique que ça se passe, on sait pas trop, mais le fait est qu'il faut quand même l'affronter avec ses petits doigts sur sa manette. Et on va à la fin planter cette espèce on va détruire je crois cette espèce de
cellule en fait, hein.
De cellule,
ouais.
Et notre personnage va quand même succomber puisque l'espèce de corruption là, le judgment dont tu parlais, va le corrompre et va le rendre malade.
Ce serait la source en fait, puisque oui, on l'a pas encore dit, mais le personnage principal est atteint d'une maladie du cœur, hein, ça me rappelle peut-être quelque chose, qui tousse souvent du sang, qui parfois s'évanouit, et ce serait judgment en fait qui serait la cause de cette maladie, pendant que Anubis, la chacal, serait lui
Le guide, l'autre entité, voilà, l'équilibre qui nous guiderait vers la destruction.
Il s'appelle pas Anubis, hein, c'est les gens qui ont déterminé que c'était Anubis parce que c'est un chien et effectivement il peut ressembler à la figure d'Anubis.
C'est ça.
Donc voilà, ça.
Et du coup, on détruit la cellule et au final, le personnage succombe à sa maladie. Mais par contre, le monde redevient paisible. Il y a plus le ciel redevient bleu. Il y a cette espèce de gros rose qui disparaît et ça y est, tout va bien. Son sacrifice n'a pas été vain. Voilà. Et c'est la fin d'Hyperlight Drifter.
Et ça encore, ouais, comme on l'a dit, c'est une lecture un peu à partir des stèles et de ce qu'on a pu voir, mais c'est une lecture qui est très premier degré, c'est-à-dire qui va essayer de tout justifier, qui va essayer de justifier donc Judgment, qui justifie Anubis entre guillemets, slash chacal, slash chien doré. En fait, c'est un peu toujours le jeu, c'est que je pense qu'Alex Preston, quand tu lui demandes, c'est le premier à te dire non, mais l'histoire, c'est ce que t'en fais, tu vois, c'est un peu comme tu le vois, et je pense qu'on a été beaucoup à voir Judgment comme une certaine représentation de la maladie ou du fatalisme, tu vois, on sait pas exactement, et toutes ces interprétations elles sont permises en fait parce que justement il y a tout ce vide en fait.
Oui, et puis même, enfin tu vois, c'est si tu le prends comme un conte, c'est un peu essentiel, tu vois, t'as un truc corrompu, une force du mal, enfin ça nous renvoie évidemment à Zelda, donc enfin c'est des choses qui sont très simples et dans lesquelles on peut projeter chacun des choses très très différentes. Et puis surtout, je pense par contre que sur l'ambiance, on y reviendra un peu plus tard, mais il arrive, quoi qu'il arrive, à installer cette espèce de mélancolie constante. Par contre, je pense qu'on peut tous ressentir ça quand on joue au jeu.
C'était quelque chose d'assez, on va dire, frappant pour l'époque, parce que ton personnage, il va vraiment, à un moment donné, on va t'enlever tes contrôles. Il y a tous des moments et il se met à cracher du sang, il a des visions où il va même carrément, des fois, tomber dans les vapes pendant quelques temps, et on va se réveiller un peu plus tard avec l'espèce de petit robot fée qui te suit et qui essaye de te remettre un peu sur pied. Et en fait, cette représentation physique, comme ça, dans le jeu, de la maladie et de l'état un peu mal en point d'un héros, ça a l'air tout bête, c'est dit comme ça, parce qu'aujourd'hui, depuis, voilà, il s'est passé pas mal de choses. Le jeu vidéo a énormément évolué, hein, il s'est passé des milliers de jeux depuis, mais c'était quelque chose d'assez finalement novateur, de mettre comme ça la fragilité d'un personnage de jeu vidéo qui, au demeurant, est ultra fort, ultra badass, et il peut faire 800 dash d'affilée dans sa petite salle. Mais c'était quelque chose, voilà, qui était nouveau et qui, du coup, faisait partie des petits éléments un peu frappants de cette idée-là, tu vois, de représenter comme ça un héros qui est malade du cœur. Alors, évidemment, il y avait des gens qui pensaient que c'était des références, tu vois, à Sangoku, Dragon Ball. Il y a eu des théories comme ça, parce qu'il y a eu des trucs comme ça. Et dans les faits, on le sait maintenant, hein, c'était à cause de Alex Preston.
La toux, c'est la sienne. C'est lui qui s'est enregistré en train de tousser. C'est sa toux, c'est la toux du créateur. D'ailleurs, on voit bien, si on écoute au casque, vous verrez, ça fait vraiment truc enregistré. Enfin, le sound design de la toux, il dénote par rapport au reste du jeu. On voit qu'il n'est pas artificiel comme tout ce qui a été créé.
Ils ont voulu le laisser, en fait, pour donner un côté, on va dire, réaliste à tout ça et faire le lien avec cette idée de Art Machine derrière.
Et en fait, ouais, ce que je trouve d'original, ce que tu dis, voilà, c'est la maladie, on n'a pas tant l'habitude de le voir. Je pense qu'on l'a vu quand même dans certains jeux, mais c'est que vraiment, c'est incorporé à l'ambiance. C'est pas un truc vraiment scénaristique, même s'il y a ce côté, il recherche probablement un remède ou on sait pas trop quoi. La façon dont c'est traité, c'est vraiment, ça fait partie du décor. Ça se rejoint un peu avec toute l'émotion qu'on peut avoir. Tu parlais de mélancolie.
Tout est malade en fait dans le jeu. Tous les endroits se souffrent de maux différents. Donc oui, tout est malade. C'est pas seulement le personnage, c'est le monde dans lequel on se trouve qui est malade. C'est un jeu, on va pouvoir passer un petit peu au gameplay. Ça fait un peu de test classique. Alors, maintenant on a parlé de l'histoire, on va parler de gameplay.
Les graphismes, alors ils sont très jolis, 4 sur 5.
C'est un jeu qui se présentait à la base comme un Zelda-like. Ça, c'était ce qui était marqué sur la page Kickstarter. Et ça a surpris pas mal de monde, parce que finalement, quand on l'observe, effectivement, il y a cette vue du dessus, il y a un certain nombre de références, il y a les petites herbes qui ont effectivement un petit peu la même tronche que les herbes de Link to the Past.
La petite fée qui nous suit.
Il y a aussi le côté où tu restes appuyé sur l'épée et hop, tu fais un tour sur toi-même, ça fait une grosse attaque. Ça aussi, évidemment, ça fait beaucoup penser à Zelda.
Oui, et puis même la structure même du monde où t'as un truc central avec le château d'Hyrule au milieu et puis les différents donjons, etc. C'est vrai que de loin c'était présenté comme un Zelda, mais je pense que c'était peut-être aussi leurs intentions en 2013, c'est-à-dire qu'ils voulaient peut-être faire un jeu plus proche d'un Zelda. Au final, ça n'est pas tant que ça.
Tu vois quand même dans la vidéo de gameplay de 2013, enfin la vidéo trailer du Kickstarter, dans le gameplay, on voit les coups d'épée qu'ils donnent, ils sont beaucoup plus téléphonés, tu sais, ça fait une espèce d'angle 90 degrés, où tu vois tout le mouvement de l'épée, ça dure vraiment, j'ai l'impression que ça dure une bonne seconde, un peu à la Zelda, tu vois, de l'époque.
Et ouais, donc ils voulaient faire peut-être que c'était l'intention de base, mais dans le résultat, on a un jeu qui est quand même assez éloigné de Zelda. Alors quand on faisait l'épisode sur Breath of The Wild, je disais que moi, pour moi, les piliers de Zelda, c'était éventuellement un petit peu l'action, mais c'était aussi surtout la résolution des puzzles. Et là, bah, y en a pas du tout. Il y a aucun puzzle dans le jeu. Il y a aucun moment où tu dois réfléchir, si ce n'est pour combattre. Mais c'est vraiment un jeu qui est très très orienté action et contemplation. Éventuellement, ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a dans Zelda, mais on peut quand même le trouver dans la série. Mais c'est vrai que c'est très fast-paced. Hein, je vais utiliser des anglicismes. Ça va en faire grincer des dents certains. Mais voilà, c'est très vif, c'est très nerveux et c'est même assez difficile. Je pense que à l'époque, d'ailleurs, ça a pas mal fait jaser.
À l'époque, on s'est rendu compte, en se replongeant un petit peu dans les papiers de l'époque, que c'est un jeu qui a un peu remis, parce que c'est assez cyclique, hein, mais le débat de la difficulté au centre des discussions, en partie parce que, comme ça a été dit, il s'est vendu comme un Zelda-like, et c'était dur, enfin le jeu, quand même, effectivement, tu vas mourir plusieurs fois. On en a parlé un peu sur le Discord, t'as des mécaniques aussi qui sont un peu, peut-être, qui peuvent être vus comme injustes, c'est-à-dire que quand tu te soignes, t'es 100% vulnérable, donc t'as vraiment, il faut vraiment...
C'est très long.
T'as pas de frame rate.
Oui, l'anime du soin,
c'est
assez
ça.
Long,
ouais. Elle est assez longue, et quand tu meurs, en fait, le jeu te remet un petit peu avant, et avec le même nombre de points de vie que t'avais avant, donc si t'avais qu'un seul point de vie, c'est foutu, tu vois, t'es obligé de retrouver la vie ou de te démerder avec un seul point de vie. Donc c'est un jeu effectivement assez difficile. Peut-être encore plus en 2016 ou par rapport à 2019, là je l'ai refait donc pour le jeu. Je me souviens qu'à l'époque j'avais effectivement un petit peu galéré, j'avais beaucoup aimé ce gameplay nerveux. Mais là en 2019, je trouve pas aberrant du tout. En fait, j'ai l'impression que l'influence Dark Souls chez les indés a quand même encore plus, tu vois, pris de l'ampleur. Et puis moi aussi, tu vois, j'ai joué à pas mal de jeux depuis. Mais à l'époque, effectivement, il a fait morfler pas mal de gens.
Mais c'est parce que justement il y a un écart qui est très important. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'analysais, c'est qu'il y a un écart qui est très important entre les phases de contemplation, comme tu le disais, où ça peut être vraiment un jeu extrêmement posé, avec cette petite musique, etc. Et d'un coup, l'action est ultra nerveuse, parce que notre héros est effectivement très fort, son dash le rend pas immortel, mais c'est tellement, on va dire, grisant de se mettre à se déplacer, de donner des coups d'épée, d'utiliser son pistolet, et petit à petit de débloquer tous les pouvoirs, parce que tu peux renvoyer les balles, tu peux passer à travers, enfin, il y a différents pouvoirs qu'on peut débloquer au fil du temps, que les combats étaient tellement nerveux, mais condensés dans quelques secondes. Moi, j'ai vraiment le souvenir d'avoir galéré sur le boss oiseau au nord la première fois, et une fois que j'avais compris comment il fallait faire, en quelques secondes, mais littéralement, hein, le combat, je lui avais roulé dessus, quoi. Il fait apparaître des cases là qui te font des dégâts, il avait à peine commencé à rentrer dans sa deuxième phase que j'étais déjà en train de lui finir sa barre de vie. Alors que, bah, au départ, je galérais énormément.
T'as Alex Preston qui parle, il dit que le héros, c'est un glass cannon, c'est-à-dire un canon de verre. Et c'est-à-dire qu'il est effectivement très, très fragile. Tu peux mourir très, très vite. Et en plus, bon, effectivement, il y a cette maladie qui renforce ça, cette espèce de fragilité. Mais par contre, il a, comme tu le dis, un pouvoir une capacité de destruction qui est très, très forte. Parce que c'est vrai, vraiment, moi, en rejouant, là, je me suis tapé des combats où, tu sais, tu galères un peu et ça va très, très vite, finalement, quand tu les réussis. Parce que tu peux faire beaucoup de dégâts et quand t'enchaînes, hop, t'alternes entre fusil à pompe, les épées, t'envoies une grenade, tu peux nettoyer en fait, tu peux faire du nettoyage très très vite. Donc il y a cette espèce de balance, on va dire, d'équilibre entre le côté tu peux détruire très très vite, tu peux être très très fort, faire une espèce de chorégraphie assez macabre et puissante comme ça, vraiment comme le samouraï, tu sais, le ronin qui va massacrer tout le monde au milieu, et en même temps en 2-3 coups, hop, tu peux mourir. Donc il y a vraiment cette espèce d'équilibre.
C'est vraiment explosif, tu vois. C'est le personnage d'un coup, il devient extrêmement fort que quelques secondes, et après un gros combat, il va faire une animation super
sur son épée, et après il crache un peu son sang.
Donc c'est vrai que ça donnait vraiment une atmosphère très particulière sur ces combats là et on en avait parlé pas mal avec Max. Il y a les mouvements, on en reparlera, mais le soin dans les animations est tel que on a vraiment ce côté chorégraphique, c'est important de le rappeler, qui rappelle plus des beat'em all à la Devil May Cry ou la Bayonetta, parce que par exemple à la fin de son dash, il a toujours une espèce de petite glissade, mais pendant t'as toujours le contrôle, donc tu peux te retourner, utiliser ton pistolet. Quand tu commences en plus à avoir l'arme, le laser là, qui permet de faire un énorme trait, enfin, ça donne des choses où tu te rends compte, tu vois, tu peux devenir très précis dans le gameplay, et ben voilà, on en revient sur ce côté grisant des combats, même si finalement c'est vrai que cette histoire de difficulté, c'est toujours intéressant, parce que bon, c'est clair qu'elle revient hein, depuis 2011, je vous assure que j'ai eu l'occasion de parler.
Tu connais un petit peu,
ouais, ça me dit quelque chose, tu vois.
Il est dur, le jeu, Benoît. Alors je dis la plaisanterie, mais parfois je vais sur les lives de Benoît, et c'est vrai que c'est souvent quand tu testes un nouveau jeu que les gens te posent la question, est-ce qu'il est dur le jeu,
quoi. C'est devenu en fait maintenant une attente. Alors c'est vrai que des fois ça a tendance à m'agacer, donc des fois je réponds un peu de manière un peu sèche, mais je comprends par contre d'où vient le truc, c'est-à-dire que depuis Dark Souls, en fait, on a compris qu'il y avait un intérêt, tu vois, une appétence pour je veux des jeux qui me mettent un peu en difficulté. Et depuis, il y a pas mal de gens qui sont un peu accros. Hein, tu sais, on parle du syndrome Dark Souls avec les gens qui arrivent plus à jouer à autre chose. Là, très clairement, dès qu'un jeu se révèle être un peu difficile, là, il y a des barres d'endurance, tu peux mourir, etc. Les gens se disent, c'est Dark Souls, ça va être bien, ça va être mon fixe. Tu vois.
Ouais, ouais.
Et donc forcément, Hyper Light Drifter, au début, c'était plus vu comme un Zelda, mais quand les gens ont pigé finalement que c'était peut-être un jeu un peu difficile, forcément,
hop, on est pas position,
on rebascule sur Dark Souls. Ça y est, c'est Dark Souls, il y a une épée, il y a des feux de camp.
Non, mais moi c'est vrai qu'à l'époque, j'y avais joué donc un an après Bloodborne. Hein. Vous le savez, Bloodborne, c'est un peu mon compas dans le jeu vidéo. Et il y a quand même une espèce de rythmique qui est très intéressante dans le jeu et que je trouve qui m'a fait penser pas mal à Bloodborne. Avec ce côté, en fait, tu recharges tes munitions en tapant avec ton épée. Et du coup, tu es constamment en train de faire le métronome entre, ok, je tire un peu de loin et ensuite je vais recharger mes munitions. Donc tu dois aller au contact, ensuite tu peux revenir un peu en arrière, et ça va développer cette espèce de rythmique qui est assez intéressante.
Ouais, ça, tu le sens vraiment. J'ai fait, du coup, comme j'ai refait le jeu, j'ai fait les boss rush aussi un petit peu après.
Ah, et ouais.
Tu commences vraiment à beaucoup plus analyser les patterns, forcément, et tu finis vraiment par identifier les phases où tu dis, ok, là je peux le taper, ce qui veut dire que je recharge ma barre, et t'essaies de trouver vraiment des fenêtres pour un moment où tu vas enchaîner esquive et il tire dessus, esquive et il tire dessus, pour ensuite pouvoir lui retirer dessus. Donc c'est vrai que t'as toute cette chorégraphie, comme ça a été dit. Ouais.
Et puis je pense que ce qui a déstabilisé aussi les gens, c'est que au final, même si dans sa structure chacune des zones elles sont assez linéaires, c'est-à-dire qu'on suit quand même un chemin plus ou moins critique et on va jusqu'au boss et hop, c'est terminé, au début en fait on peut aller dans trois directions totalement différentes. On peut commencer par le nord, par l'est ou par l'ouest, Et je pense que bah, rien que ça, avoir cette espèce de choix au début, ça a pu déstabiliser des gens, sachant que chacune des zones peuvent être assez hostiles dès que tu débarques. Il y a peut-être des gens qui se sont dit, bon, bah, je suis allé là, je me suis fait vraiment latter la tronche, ça se trouve, je commence par le côté le plus difficile, entre guillemets, alors qu'il y a peut-être un endroit qui est plus simple. Donc,
et ça, c'était évidemment un écho à Dark Souls, parce que bah, du coup, pour pas mal de monde, en 2011, quand ils ont découvert Dark Souls, il y avait le moment où ils sont allés dans le cimetière ou directement avec les fantômes en bas, et où forcément, c'était pas le bon chemin, entre guillemets, ou en tout cas, la difficulté était plus dure. Donc, maintenant, en fait, les gens, ils se méfient. Tu vois, c'est rigolo, ça a créé des réflexes comme ça à Dark Souls. Tu te méfies en te disant, s'il y a plusieurs chemins, il y en a un qui doit être plus adapté à mon niveau de difficulté. Dans les faits, pas tant que ça.
Dans Hyper Light Drifter, ouais, non, pas tant que ça. C'est vrai que moi, de ma première partie, j'avais commencé par l'Est, et en fait, ça s'était bien passé globalement. Moi, j'ai pas eu tant de mal que ça sur le jeu. J'ai beaucoup plus galéré, par exemple, sur Fury, qui est sorti juste après, et beaucoup, beaucoup plus posé de difficultés. Mais ouais, sur Hyper Light Drifter, ça a pas été tant la galère que ça. Et je pense que de toute façon, comme dit, voilà, ce genre de gameplay nerveux, combat à l'épée, c'est des choses qui me parlaient beaucoup déjà à l'époque. Quoi.
Et ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois, dans l'épisode, on parlait de Doom et de son gameplay qui nous poussait justement à ce côté voilà, bestial et brutal. Et en fait, bah, c'est la même chose quelque part, Hyper Light Drifter. En vous écoutant en parler, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, j'ai pas du tout fait le lien. Mais en fait, c'est finalement la même intention derrière, c'est-à-dire de nous donner envie d'aller très très loin. La différence, c'est que contrairement à Doom, on ne fait pas qu'enchaîner des salles. Finalement, l'espace entre les combats nous permet de bien respirer et de nous préparer à ces tout petits moments explosifs d'action survoltée.
Oui, c'est Maxime qui quand parlait, quand toi t'as refait le jeu, tu t'es dit, c'est vrai que dans tes souvenirs, t'avais peut-être moins cette la quantité de contemplation entre guillemets entre les combats. C'est-à-dire que bah, c'est vrai que quand on repense au jeu, on pense au combat surtout. Mais finalement, ouais, moi aussi en le refaisant, je me disais, tiens, il y a beaucoup de moments finalement où on fait simplement de la balade, où on observe notre environnement, quoi. Ils ont vraiment construit en fait une espèce de boucle qui s'est... En fait, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'à la base, ils voulaient faire, c'était Didif qui le raconte dans une interview, ils voulaient mettre aussi, par exemple, des phases de plateforme pour vraiment alterner entre l'action et du platforming. La référence pour eux, c'était Uncharted, parce que bah, c'est des gens qui savent, Naughty Dog, c'est des gens qui savent très bien gérer le rythme. Et bah, ça marchait pas tant que ça, et ça imposait surtout de développer d'autres systèmes de gameplay. Donc ils se sont dit, ok, on va pas faire ça, et on va simplement faire tout le côté contemplation mais aussi exploration, puisque il le disait, c'est un jeu qui est beau de toute façon, voilà, c'est un jeu qui est magnifique. Donc est-ce qu'on peut pas pousser les gens à avoir envie d'observer chaque recoin de chaque tableau? Et ils sont tombés sur cette histoire donc de petites salles cachées qui sont autour du chemin critique et qui sont toujours représentées par cette espèce de petit symbole qui doit faire je sais pas, peut-être 8-12 pixels, un truc comme ça, qui est vraiment tout petit.
Ouais, il y a un petit carré en fait sur les plaques au sol qui est toujours le même, qui indique en fait un passage secret. Mais vu la façon dont la perspective est gérée, ça, il y a une level designer qui avait fait une conférence à la GDC qui expliquait ça. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des petits soucis de lisibilité, mais ils ont préféré en fait l'utiliser pour justement mettre des trucs cachés.
Ouais,
des trucs cachés. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce qui pourrait être gênant dans la plupart des jeux, c'est-à-dire je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où est la limite, eux, ils l'ont exploité en disant, bah, vu que tu sais pas où t'es, on va mettre des trucs cachés et ça sera d'une meilleure récompense. Et c'est vrai que quand moi j'ai refait le jeu, parce que j'ai mis plusieurs fois à me mettre dedans, une fois que je me suis remis dedans pour de bon, j'ai commencé, une fois que j'ai détecté ce petit carré-là, tu sais, comme les traces blanches par exemple un Uncharted ou un The Last of Us avec les traces jaunes, j'ai commencé à toutes les chercher et il y en a partout.
Oui, il y en a vraiment partout.
C'est effrayant, il y a très peu d'endroits où il n'y a pas des trucs cachés, secrets. Il y a des salles, on le voit, parce que, bah, on a besoin d'un certain nombre de carrés pour les ouvrir, donc on voit qu'il y a des salles qui vont nous demander de revenir plus tard, mais même en s'éloignant du chemin principal, ça n'arrête jamais.
Et ça, oui, c'est un truc que le jeu ne nous dit pas, c'est vraiment à nous de le comprendre, de le réaliser, et donc chacun, je pense, au début de nos parties, on a mis du temps, tu vois, on a dû tomber dessus un petit peu par hasard, mais pour, comme vous le disiez, c'est quasi systématique, enfin, t'en as vraiment énormément.
Quasiment à tous les tableaux, il y en a tout le temps, hein, quoi, pour qu'il va te donner soit un petit peu de monnaie, donc l'espèce de petite monnaie où il t'en faut 4 et hop, ça te fait un petit billet que tu pourras utiliser après, mais soit, oui, même il y a des, dans chacune des zones, on peut activer jusqu'à 8 espèces de triangles, en fait, qui alimentent le truc, et si on suit vraiment le chemin principal et qu'on voit pas, on va pouvoir quand même trouver le nombre suffisant pour pouvoir réussir la mission. Mais par contre, t'as des endroits où c'est vraiment juste un petit pixel et hop, il est caché là et tu le trouves. Et là, j'ai refait le nord et j'en ai trouvé 6 sur le chemin, en suivant le chemin, alors que la première fois, j'avais dû en trouver que 3, quoi.
Ouais, t'as les pièces, t'as les triangles, t'as des tenues aussi, de drifter, tu vois, les stèles dont on parlait tout à l'heure.
Oui, c'est vrai aussi.
T'as des armes, alors t'en as pas beaucoup de cachets, mais t'en as caché. Enfin, c'est un jeu qui regorge vraiment de petits endroits endroits à cacher, et puis parfois c'est vraiment à base. Il n'y a pas que des petits carrés, parfois tu peux aussi activer des espèces de plateformes invisibles.
Ah oui, 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 ça
c'est
fait aussi.
Ta ouais. petite fée, tu vois, que tu, ouais. dois, que tu dois.
Mais en général, il y a un petit carré devant.
Souvent,
quand même,
ouais, je ne suis pas sûr qu'il y en ait toujours, mais ouais, souvent. Mais sinon, parfois tu as des petits boutons qui sont cachés derrière.
Ouais,
des,
c'est ça,
des éléments
oui,
du
voilà,
décor.
Oui, oui, il faut détruire.
Enfin voilà, c'est vraiment. C'est, comme on se le disait, en fait, on ne fait vraiment pas que se battre. Il y a beaucoup de moments de contemplation, beaucoup de moments où on va chercher des secrets. Et il y a quelqu'un qui en parlait sur le Discord où il y avait joué. En fait, c'était un peu paumé aussi. Parce que, effectivement, le jeu, il te dit pas quand même clairement où aller, même si c'est un petit peu linéaire, comme tu le disais, en termes de trajet entre toi et le boss. Il y a quand même tous ces trucs un petit peu à trouver, et aussi, tu peux croire que c'est linéaire, et en fait, te retrouver dans plein de zones cachées, et du coup, plus trop savoir où t'en es.
Sachant qu'ils ont fait volontairement un choix au niveau de l'affichage de la carte qui est assez malin, qui n'indique rien en fait. Ouais. Elle t'indique dans quelle zone tu es globalement. Alors c'est un petit rappel à la Zelda, parce que dans Zelda Link to the Past, on sait dans quelle case on est, mais on ne sait pas précisément à quel endroit on est. Eux, ils ont fait plus gros, c'est-à-dire qu'on sait globalement dans quel secteur. Il te dit, tu es à l'est, et toi, tu es là, bon, bah merci, j'étais au courant. Sachant qu'en plus, il y a la carte des sous-sols qu'on découvre au fur et à mesure, parce qu'il y a tout un réseau de bâtiments souterrains dans lesquels on va pouvoir aller, qu'on va pouvoir plus ou moins visiter. Hein, on en revient encore à cette histoire de contenu caché. On peut choisir d'essayer de vraiment tous les trouver, et c'est vraiment en refaisant le jeu une deuxième fois en New Game Plus que je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait manquer. Et je trouve ça, moi je suis toujours admiratif des studios qui cachent comme ça du contenu, plutôt que de nous le déverser à la tronche, le laisse comme ça caché. Ça demande quand même une certaine confiance en soi, parce que bah, évidemment quand on est développeur, on travaille pour que les gens y parcourent notre jeu. Donc si on cache volontairement la moitié du contenu, voire plus, on peut se dire que les gens vont passer à côté d'une partie de ce qu'on avait envie qu'ils découvrent, mais il faut aussi l'accepter. Tu vois, c'est toujours un peu. Je pense que ça doit être très difficile à prendre ce genre de décision. Donc, eux, ils sont allés vraiment à fond dedans, et bah, je trouve que ça marche extrêmement bien.
Même si, comme. En fait, il y a quand même une carotte qui est quand même très intéressante, parce que les pouvoirs qu'on peut débloquer, justement, grâce à la monnaie qu'on va souvent trouver dans les trucs cachés, ils sont quand même vraiment hyper utiles, parce qu'ils vont vraiment te faciliter la vie. Une fois que tu as fait une zone, tu vas pouvoir aller dans une autre avec vraiment des armes supplémentaires. Quand tu peux enchaîner les dashs, bon, bah, ça, c'est déjà la base. Mais après, le fait, par exemple, de pouvoir renvoyer les balles, ça va te changer la vie. Enfin, il y a des boss qui ne se joue pas du tout de la même façon. Si tu peux renvoyer les balles, tu vas vraiment pouvoir prendre le combat d'une autre façon. Et par exemple, je sais que le boss final, si tu peux lui renvoyer les balles, c'est une formalité. Oui, voilà, c'est vraiment pas si difficile que ça, parce qu'il t'envoie une espèce de nuée de balles à un moment, et il suffit de lui renvoyer 2-3 fois la tronche et tu lui vides vraiment sa vie, quoi. Donc t'as des pouvoirs qui sont vraiment très très utiles. Ça, c'est quelque chose qui m'avait bien plu, parce que finalement le jeu, il est déjà pas si facile que ça à bien maîtriser, pour bien maîtriser la rythmique entre les dashs et les coups. Et après, tu vas débloquer d'autres choses qui te donnent vraiment de nouvelles possibilités dans le combat. C'est pas simplement des stats, c'est pas simplement j'ai plus de vie ou je fais un peu plus mal. Même si on peut jouer un petit peu avec ça, je crois, sur les tenues qui peuvent avoir un peu un impact sur les stats. Mais bon, j'en avais trouvé que dalle pendant ma première partie, donc de toute façon, le problème se posait pas. Mais voilà, c'est vrai que d'avoir toutes ces possibilités, moi je trouvais que c'était vraiment chouette, et ça rejoint cette idée de chorégraphier un peu ces combats en utilisant toutes les options qu'on a à notre disposition, quoi.
Ouais, Alex Preston, en interview, au début, quand il parlait du coup de cette fameuse difficulté des combats et tout qu'avait pu surprendre à l'époque, il a l'air d'avoir une approche un petit peu superficielle de la difficulté, où il dit juste, bah ouais, moi les jeux durs, j'y jouais quand j'étais petit, c'était cool, tu vois, j'aime les jeux durs. Il parle aussi de Dark Souls, évidemment, où il disait au début, lui, il a détesté Dark Souls, parce qu'il s'est fait ravager la tronche en jouant, il a dit, bon bah non, c'est de la merde. Et après, il s'est remis une année après, il a découvert que...
c'était pas tant de la merde que ça.
Que ça va, il
aimait
bien.
Genre, attention, hein, je m'inclus aussi dedans.
Mais après, il est quand même très conscient que la difficulté d'Hyperlight Drifter sert quand même un petit peu tout le propos, parce qu'il dit ça reste quand même un jeu à propos de la lutte, de la bataille, donc avec le personnage qui est malade, hein, qui va essayer de trouver ce remède, et tout ce monde aussi qui lutte. Et effectivement, on va beaucoup mourir, et ça fait partie complètement, ça renvoie un petit peu à tout ce qu'on a autour de nous, et c'est du coup pas étonnant qu'on ait aussi beaucoup de gameplay misé sur l'exploration, la contemplation, parce que ça fait partie de l'expérience du jeu. En fait, Hyperlight Drifter, c'est pas que du combat, c'est aussi tout un univers qui est autour de nous, c'est des thématiques qui vont se répondre, donc par les combats, par l'ambiance, et par juste le fait qu'on se batte, c'est quand même un jeu où il y a un bouton pour s'asseoir, tu vois.
Ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est quand même assez incroyable. Moi, en y rejouant, là, j'ai été... vraiment encore une fois époustouflé par le choix des couleurs, parce que vraiment Alex Preston, bah, c'est un illustrateur, il a fait un travail, il a choisi cette espèce de rose très très flashy, ce bleu un peu froid, un peu glacial, qui tourne un peu vers le vert comme ça, et il y a des espèces de contrastes constamment, et ça m'a fait un peu penser, avec la musique de Disaster Piece par-dessus, parce qu'elle joue aussi un rôle vraiment important dans l'ambiance, ça m'a fait un peu penser à Blade Runner. Je sais pas si vous vous souvenez de cette séquence incroyable où il y a Descartes qui retire une des réplicantes, vous savez, dans l'espèce de club là, elle sort d'un club, carrément. Et il lui tire dessus et elle court à travers des vitrines et tout, il y a plein de néons et il y a l'espèce de musique de Vangelis en fait qui reprend tout son droit sur l'image, parce qu'il y a quasiment plus que le son des coups de feu et des éclats de verre qui résonnent. J'ai re-regardé la scène et en fait il y a une espèce d'alchimie particulière, une espèce de mélancolie et de beauté avec tous les néons qui se passent, et je trouve que Hyper Light Drifter, on en parlait, tu sais, l'espèce de moment là où tu grimpes à la montagne, où bah, t'as des espèces de grands combats et puis après tu vas avoir cette espèce de calme et cette espèce de titan qui est accroché à cette montagne, et ouais, il y a une espèce de beauté comme ça un peu hypnotisante qui émane de ce jeu, à la fois par son choix de ses couleurs et bah ouais, la musique de Disaster Piece, quoi.
La musique qui s'emballe vraiment à ce moment là c'est complètement calculé, on le sent quand on s'approche un peu du tableau, on va voir le titan, on commence à entendre
le mec qui tourne le petit potard,
il arrive, tu vois, il est en train de monter, et puis si tu t'éloignes, ça c'est marrant parce que ça redescend, tu fais attends, non, on attend encore un peu, et une fois que t'arrives vraiment, ouais, où ça se fait en deux fois, tu peux voir la montagne au loin avec le titan au loin, et là c'est la première fois que t'as ce contact, en tout cas quand tu vas, moi c'était mon premier contact avec un titan parce que j'avais commencé par le nord, et là t'as la musique qui s'emballe, et ouais, c'est un moment vraiment qui m'avait scotché sur
surtout mon... qu'on est très bien préparé à ça, parce qu'on voit en fait le cadavre du titan qui est vraiment posé, en fait on le voit qu'il a son bras comme ça sur la montagne, et on n'a pas encore une idée de l'échelle, on voit juste où ça a l'air d'être gros, et quand on se rapproche et qu'on voit qu'effectivement la tête elle fait 6 ou 7 fois la taille de notre personnage,
t'as une main qui est posée au nord sur la plateforme et que tu peux marcher donc sur la main, et tu fais ah oui d'accord, ok, c'était vraiment ce genre très, très d'échelle gros. Là quoi,
et c'est pas mal parce que même si le jeu finalement a une caméra qui pourrait être assez gênante pour donner des impressions d'échelle, ils ont réussi comme ça en trichant sur les perspectives à nous donner vraiment une idée de l'immensité du monde qu'ils voulaient nous faire découvrir, et forcément ça marche très très bien. Moi j'ai regardé la conférence là donc de Akash Thakkar qui est le sound designer, un truc qu'il disait qui était vraiment différenciant pour Hyper Light Drifter par rapport aux autres productions indépendantes, c'est que lui il était là dès le premier jour, en fait du jour où ils ont touché l'argent des Kickstarter ils l'ont embauché comme sound designer, et il disait que ça c'était mais vraiment crucial parce que il a pu en fait travailler avec eux tout du long, alors que souvent le sound design c'est quelque chose qui est relégué à des choses un peu, on va dire, annexes du développement, et lui comme il a pu être là, ouais c'est ça, ça arrive assez tard, et comme là c'est arrivé depuis 3 ans, il disait il a fait des tonnes et des tonnes d'essais sur chaque bruit, chaque vraiment petit son qui est utilisé dans le jeu, il en a fait énormément de tests jusqu'à trouver vraiment exactement ce qu'il voulait, et c'est vrai que quand on réfléchit un petit peu en termes de game design, fermer les yeux, écouter une scène de bataille ou juste les dashs, etc., il y a des bruits qui sont, mais lui-même, tu vois, il kiffe, tu vois, dans la conférence, c'est super parce qu'il est en train de kiffer en disant ah le bruit du dash, tu vois, et il explique qu'il a dû faire peut-être une trentaine de fois avant d'arriver à ce son précis et qui marche vraiment parfaitement bien, quoi. Et même un son d'épée, il montre en fait dans sa conférence, elle est très courte, hein, c'était à la GDC Europe, elle dure que 25 minutes, mais il explique pas mal de choses. Il montre par exemple qu'un simple coup d'épée, juste le premier, parce que c'est pas le même son que tu fasses entre les différents coups, c'est déjà 15 petits sons différents qui sont mixés de manière très précise. Et il dit si t'en enlèves qu'un seul, bah en fait dans le jeu on se rend compte que ça fait quelque chose de très différent. Donc ils ont, lui il était content en fait d'avoir été là dès le début parce qu'il trouve que le jeu finalement fonctionne très bien grâce notamment au sound design. Et c'est vrai que on a tendance à l'oublier, mais en termes de GD le son est très important pour l'immersion.
Oui, c'est un
pour l'impact.
Ouais,
c'est un élément vraiment essentiel du jeu vidéo qui est extrêmement cryptique et expérimental. Et lui-même le dit, c'est-à-dire que des fois, je grattais un truc contre un mur, je trouvais ça cool et je me suis dit, je vais l'enregistrer. Tu vois, il expliquait qu'il avait tout un dispositif bizarroïde avec un stéthoscope qu'il avait transformé en microphone et en fait, il enregistrait des bruits dans la rue. Et d'ailleurs, bon, ça c'est pour l'anecdote parce qu'elle est vraiment drôle cette conférence. Il expliquait qu'il s'était acheté un gilet orange et des plots pour faire croire qu'il faisait des travaux et comme ça, il pouvait enregistrer des trucs sans avoir l'autorisation de la police. Et la police passait à côté et il le voyait avec son truc et il pensait que c'était un ouvrier quelconque. Et du coup il s'est dit c'est génial parce que j'ai pu enregistrer des bruits vraiment naturels et ça a donné des trucs incroyables, quoi.
Et c'est vrai que sur le son, il y a un vrai travail qui est incroyable et qui participe à cette fameuse idée d'immersion. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des vidéos sur Internet là-dessus. On ne sait pas. Allez voir ça. Sur toute la partie visuelle, on n'en a pas parlé du tout, mais toute cette inspiration, évidemment, de Miyazaki. On n'a pas parlé de Nausicaa, de la Vallée du Vent, qui a eu une importance capitale, en fait, dans l'inspiration. Éventuellement, côté jeu vidéo, on peut dire c'est Dark Souls, c'est Zelda, mais sur le côté visuel, c'est vraiment Nausicaa de la Vallée du Vent, Le Château dans le Ciel aussi, également de Miyazaki, qui a vraiment... on sent que c'est des œuvres qui ont beaucoup travaillé Alex Preston, et il les a vraiment complètement réinterprétées, réingurgitées, pour les ressortir dans son jeu. Bah, même ses Titans, enfin vraiment, il y a cette espèce de séquence, Maxime l'avait posté sur le Discord, je crois, où on voit vraiment la séquence d'intro de Nausicaa. Enfin, il y a des frames, enfin, il y a des...
Des peintures murales.
Il y a des scènes, des séquences.
Oui, il y a des séquences, voilà, qui sont vraiment. Enfin, c'est limite du copier-coller avec ce qu'on a dans Hyper Light Drifter, à quel point c'est vraiment hyper référencé, quoi.
Ouais, j'ai regardé le film là, pour l'épisode, et je vous avais posté à vous les screenshots. J'ai dit, ça fait 8 minutes que je regarde, j'aurais mis genre 10 screenshots, et vraiment, chaque truc, ça te renvoie Hyper Light Drifter dans la tête. En tout cas, quelqu'un comme moi, parce que j'avais pas vu Nausicaa ou je l'avais pas lu, et clairement, les inspirations, elles sont évidentes.
Bah, de toute façon, on le disait tout à l'heure, mais même dans l'inspiration même de l'univers, tu vois, et de la thématique centrale qui était cette fameuse quête de l'immortalité, etc., on retrouve un des grands poncifs du travail de Ghibli et de Miyazaki, qui est, on va dire, la curiosité des hommes qui les mène à leur propre perte. Et Nausicaa, alors je vous invite à voir le film si c'est pas déjà fait, mais surtout si vous avez la possibilité de lire les mangas, explore énormément toute cette idée-là, et ça va très très loin. Et d'ailleurs, on retrouve finalement un peu les mêmes archétypes parmi les peuples, c'est-à-dire que dans Nausicaa, il y a un peuple qui est complètement fanatique et qui a développé une nouvelle religion, il y a ceux qui sont un peu isolés, il y a ceux qui ont complètement disparu et il n'en reste que quelques survivants. Enfin, on retrouve en fait un petit peu vraiment des choses, et comme tu l'as dit, au niveau du visuel, même dans le choix d'apparence des titans, on voit qu'il y a effectivement eu une énorme inspiration de Nausicaa, ce qui est cool, parce que pour moi, c'est vraiment un de mes films favoris de Ghibli, et même un de mes films favoris tout court. Donc j'étais évidemment ravi en découvrant Hyper Light Drifter, en me disant mais c'est incroyable, ils ont fait Nausicaa le jeu, quoi.
Oui, et puis même la tenue, je crois, du Drifter fait évidemment penser à la tenue qu'elle a Nausicaa quand elle vole sur son truc là, son espèce de petit casque qu'on pose sur les yeux. Donc ouais.
Et pour en revenir un petit peu sur les thématiques, à l'est, moi c'est un truc qui m'avait vraiment frappé, puisqu'on rappelle, donc là c'est la zone où il y avait les loutres qui sont en train de subir littéralement un génocide par les crapauds, et c'est une zone qui est hyper paisible, en fait c'est la zone la plus verdoyante, il y a beaucoup d'eau, les titans
c'est super lumineux,
ouais, c'est plus lent comme ça, il y a vraiment la nature,
c'est très beau, t'as des barques qui sont posées sur l'eau, enfin c'est vraiment l'imagerie du calme, tu vois, où tu vas vraiment te poser pour juste t'asseoir dans l'herbe et regarder et écouter l'eau passer, sauf que littéralement à 2 mètres de toi t'as des têtes de loutres qui sont plantées sur des piquets et elles sont écartelées, tu vois, je sais pas s'ils ont fondu cuir ou quoi, mais ou s'il y a les corps, non vraiment t'as
si il va loin dans le lore,
ah non mais t'as des... parce qu'en fait ils sont, non mais t'as vraiment les corps des loutres, t'as les 4 pattes qui sont écartelées, je sais pas si c'est les corps ou juste la peau, tu vois, parce qu'on distingue pas forcément
la Ramsay Bolton pour faire une référence,
et t'as un peu presque un paradoxe en fait de dire, enfin je suis en train de marcher à côté de piles de cadavres et qui sont vraiment torturés, quoi. Et mais c'est cool, tu vois, je peux si j'attends un peu, le personnage il va s'asseoir par terre, et en fait il y a vraiment c'est très paisible, et donc il y a cette opposition un petit peu nature calme, et qui a repris un petit peu ses droits aussi sur toute cette violence qu'il y a, et comme tu le disais, chez Miyazaki, que ce soit dans Princesse Mononoke et donc le studio Ghibli ou Nausicaa, c'est une thématique évidente, vraiment la nature versus la folie et la violence des hommes, c'est au centre de beaucoup de choses.
D'ailleurs, cette violence, il en parlait Teddy Diff, lui il est pas très à l'aise avec tous ces, parce que en fait c'est quand même assez graphique, en fait, c'est à dire que t'as quand même cette bestiole, ouais, cette loutre qui est quand même écartelée, c'est une image qui m'a quand même marqué, et il disait que lui il est pas très à l'aise avec toutes ces manifestations de violence comme ça, mais en fait dans le jeu, comme il y a cette espèce de, il fallait qu'on ressente cette espèce quand même de dureté pour que l'espèce de mélancolie et le contraste avec la beauté du paysage se fassent, et il disait que d'ailleurs Alex Preston, lui il était il pouvait être assez froid par rapport à la violence, parce qu'il avait l'habitude de voir même l'intérieur de son corps, des plaies, du sang, des choses comme ça, donc il était habitué à voir des choses comme ça un peu chirurgicales entre guillemets, et du coup ils ont pas hésité à le mettre dans le jeu, et je trouve qu'effectivement ça renforce cette espèce d'âpreté qu'il peut y avoir.
Il y a en fait Preston, il, dans une vidéo de Vice, j'ai pas vraiment ressenti dans le reste, mais dans cette vidéo de Vice, c'est peut-être pour des raisons de ligne éditoriale où ils se veulent un peu edgy,
ouais.
Alex Preston, il apparaît comme très cynique, où vraiment il est en mode ouais, je suis Alex Preston, salut, demain je serai peut-être mort à cause de ma maladie du cœur, tu vois, et il est, tu vois, chez lui un peu en peignoir en train de s'enfiler des pilules, c'est vraiment, enfin, Dr. House, un peu, tu vois, c'est ce genre un peu de personnage. Et après, si tu te mets un peu dans sa peau, tu dis, ouais, un peu comme, tu vois, le drifter qui est malade aussi, il peut voir des belles choses autour de lui et se dire, mais demain, je vais peut-être mourir. Et c'est quelque chose que tu peux vraiment ressentir, je pense, dans Hyper la Drifter, où, comme on le disait, t'as vraiment toute cette violence, mais aussi tout ce côté paisible, et c'est un peu difficile, en fait, de voir les deux coexister. Et sinon, pour en revenir à cette notion de mélancolie, quelque chose d'autre qui renvoie vraiment à ça, c'est le post-apocalyptique. Alors, j'avais vu une petite vidéo de Damastes, qu'on connaît un petit peu, donc salut à lui, qui avait parlé en fait du peintre Hubert Robert, peintre français du 18e si je dis pas de bêtises, et qui fait beaucoup de peintures en fait de ruines, ou sinon on voit des personnes contemporaines, donc du 18e qui sont dans des ruines un peu romaines et tout, et il y a Diderot qu'on avait parlé et qui avait appelé ça la poétique des ruines, et ouais. En fait ce côté que voir des ruines comme ça dans un décor un peu au quotidien, bah ça te renvoie à toi-même, où tu dis que même la pierre, tu vois, qui est infiniment plus résistante que toi, bah le temps est passé là, tu vois,
cela aussi passera,
c'est ça, tu vois, elle aussi elle a été ravagée par les passages du temps, et en fait quand tu vois un truc aussi fort, aussi résistant qui est déjà détruit, tu dis bah en fait moi aussi je suis rien, tu vois, à côté de ça, et je vais disparaître en un moment de temps, et c'est très mélancolique en fait comme émotion. Une ruine, ça peut susciter en fait une émotion, ça te renvoie à toi en fait, ça te renvoie à tout le passage du temps que tu subiras forcément.
Oui, et puis ça c'est renforcé du coup dans le jeu par ces questions d'échelle dont tu parlais toi Benoît tout à l'heure, il y a vraiment cette perspective par rapport au titan, tu te sens tout petit, tout rikiki malgré ta puissance destructrice que tu peux avoir, et ouais, du coup ça participe effectivement à cette espèce de...
Et on explore un monde en fait, on explore le monde qui est en train de mourir, donc forcément, tout dans le jeu, tu vois, on parlait de mélancolie, le monde il est malade, et tout nous renvoie à notre propre mortalité en fait. Ça c'est quelque chose qui est assez difficile à vraiment expliquer, et qui montre en fait vraiment le travail de narration qu'ils ont préparé, parce que ça peut vite tomber soit dans du mélodramatique, soit dans quelque chose qui te passe complètement à côté, parce que des ruines on en traverse énormément, mais ça, si, selon la façon dont tu vas peut-être mettre en scène l'endroit, comment tu vas choisir ta musique, etc., on va pas forcément se rendre compte qu'il s'agit de ruines, alors que là effectivement cette opposition entre la violence et la beauté des paysages, moi ça me renvoyait vraiment à cette idée que tu vois, enfin moi je m'étais figuré un peu Hyper Light Drifter comme t'es un peu une espèce de reporter de guerre, t'es arrivé deux jours après la bataille et là tu vois il y a encore les restes fumants, et tu viens tu vois au lever du soleil et tu vois ce qui s'est passé, et tu voyais en fait l'horreur de tout, mais eux ils ont réussi à ne pas nous focaliser uniquement dessus et à nous donner en fait cette envie de quand même se comprendre que bah, autour de ça il y avait tout un monde qui a une histoire, il s'est passé des choses, et ça montre en fait ce qu'on comprend pas nous quand on joue et qu'on oublie souvent, ça montre le travail d'écriture massif qu'il y a eu en amont, parce que pour écrire un monde où tu peux te permettre d'évoquer plusieurs époques différentes dans un seul plan en pixel art, ça demande quand même un énorme travail de préparation, et ça justifie peut-être aussi le fait que le jeu ait pris 3 ans au lieu d'une seule année.
Et c'est vrai que toute cette ambiance finalement elle vient prendre le pas, je trouve, sur le classicisme entre guillemets du gameplay. C'est-à-dire que finalement, c'est un jeu indé qui sort en 2016, c'est pas un jeu qui, par ses idées de design et compagnie, va vraiment bousculer les codes. C'est-à-dire que, ok, c'est difficile, ça marche, mais finalement, une fois qu'on a passé là-dessus, bah, c'est un jeu qui a une structure classique. Enfin, vraiment, cette idée d'espèce, enfin, il y a une espèce de simplicité avec cette histoire de carré. Enfin, c'est vraiment tout le temps, il y a un carré au milieu, autour de chaque carré, il faut trouver 4 trucs pour activer les trucs. Enfin, c'est d'ailleurs assez marrant parce que c'est du pixel art, donc il y a aussi cette idée de carré. Enfin, je sais pas si tout est parti de cette idée de pixel pour tout le temps rester sur le carré. Il y a les 4 peuples, donc il y a quand même une structure en fait qui est assez limpide, vraiment, quand tu veux comprendre le jeu. Pareil, les mécaniques, les boss et tout, c'est extrêmement bien rythmé. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est très bien exécuté en fait, et vraiment là, même en refaisant le Nord, tu vois, je trouve qu'en termes de rythmique, en termes d'alternance entre les combats et tout, c'est vraiment très réussi, et il a un côté un petit peu comme ça, ouais, un peu premier de la classe, tu vois, c'est-à-dire que le jeu qui a bien compris ce qu'il voulait faire en termes de game design et qu'il le fait très bien, et c'est d'ailleurs même un peu surprenant, et ça nous renvoie encore une fois à ce qu'on disait sur Hollow Knight, c'est-à-dire que Alex Preston, c'est un mec qui a pas un background en termes de design, mais il a cette espèce, je pense, bah, à la fois son bagage de joueur, et c'est cette espèce d'intuition comme ça pour le game design qui fait qu'il fait un jeu qui est quand même extrêmement péchu, tu vois, dans ce qu'il essaie de faire. Et avec toute son équipe qui a pu vraiment faire un espèce de petit bijou qui est quand même très réussi. Mais malgré tout, je trouve que c'est quand même le côté personnel qui l'emporte et l'espèce de mélancolie dont on parle jusqu'ici qui arrive quand même à prendre le dessus et qui marque le plus le jeu et qui arrive finalement à lui donner son identité au milieu de, vous le savez, du paysage vidéoludique de 2016.
Bravo.
Donc, non, mais voilà, c'est vrai qu'il arrive vraiment à trouver son identité. Et j'essayais d'y réfléchir, je me disais, des jeux comme Hyper Light Drifter, c'est-à-dire qui sont aussi quali sur la partie design, qui arrivent à parler de quelque chose de personnel et qui sont en plus, polished, j'arrive pas à trouver le mot en français.
Non, ils sont aussi affinés sur la finition. Ouais.
Et il y en a pas tant que ça finalement, des gros jeux indés comme ça.
Alors si, mais par contre, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il fait partie d'une espèce de première vague de jeux. Parce que là, tu vois, en 2019, des jeux aussi aboutis, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il est arrivé, en fait, il faisait un peu partie des titres pionniers, tu vois. Moi, je trouve que le jeu vidéo, on a tendance à dire, il y a eu l'époque des indés, mais à l'intérieur même, depuis qu'il y a les jeux indépendants, on sent qu'il y a eu quand même des phases. Et Hyper Light Drifter, il illustre justement cette arrivée de gens qui ne viennent pas du jeu vidéo et qui nous montrent que, justement, ils apportent quelque chose, en fait, dont on avait besoin. Et je trouve ça super intéressant, en fait, toute cette approche-là, de se dire que des gens qui n'ont pas fait de jeu vidéo au départ apportent une sensibilité qui vient d'un autre domaine et ils font que, tu vois, c'est l'idée du melting pot dans l'idéal américain, c'est-à-dire que les gens, ils apportent tous leur petite pierre à l'édifice. Et l'édifice, au final, on est plus riche pour ça. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que le jeu vidéo, finalement, c'est un art qui ne nécessite pas, finalement, tant de connaissances techniques. Et avec les années qui passent, t'as moins en moins besoin d'être un expert en technique pour réussir à faire un jeu vidéo.
L'art du game design, si on considère, je sais pas si le jeu vidéo est un art, mais voilà, si on veut considérer que le game design c'est un art, ça veut dire qu'effectivement, c'est quelque chose qui tient à nos sensibilités et que si on a joué à des jeux, des choses comme ça, on peut se lancer là-dedans et avoir des idées qui soient intéressante, quoi.
Oui, parce qu'on peut arriver en fait et avoir, comme tu disais, cette intuition du game design. Toujours pour revenir sur la conférence d'Akash Thakkar, le sound designer, il disait que pour lui, le jeu vidéo, ce n'est qu'une suite d'expérimentations et d'erreurs. Et lui, en anglais, il appelle ça failing upward, c'est-à-dire on se trompe mais on avance en même temps. Et donc en fait, à force de se planter, on arrive à un résultat qui donne quelque chose. Et quand tu commences à discuter avec des développeurs de jeux vidéo, c'est une idée qui revient, c'est-à-dire que le principe d'itérer, d'itération, c'est-à-dire qu'on teste un truc. Au départ, en fait, au début, ils avaient une idée, ils se sont dit, on va jouer ça. Ils avaient probablement une idée pas forcément très précise, mais à force d'itérer, à force de travailler, à force de... Tu sais, moi, j'utilise beaucoup en ce moment, dans ma façon de réfléchir, j'utilise beaucoup l'idée de la sculpture sur de la glaise.
Je suis tout à fait d'accord.
Tu grattes petit à petit, et au bout d'un moment, à l'intérieur, t'as l'impression qu'il y a cette sculpture qui prend enfin forme. Au début, t'avais ce truc qui était déjà joli, tu vois, c'était une espèce de forme un peu informe, justement, et petit à petit, à force d'y aller, de gratter, ceci, etc., tu vas trouver ta sculpture, et à un moment donné, tu dis, j'ai mon jeu vidéo, on arrête
mais
là.
En fait,
on
ça c'est... Mais en vrai, c'est vrai pour tous les arts, parce que même Picasso, par exemple, je sais que ces grands tableaux, les grands tableaux de maître de Picasso, il faut pas imaginer Picasso qui s'est pointé devant son machin et qui a balancé comme ça. C'est des années en fait de travail où il fait peut-être parfois 600 fois le même dessin avant d'arriver à vraiment la peinture qu'on va voir dans le musée et qui fait sa renommée.
Là en plus, l'exemple de Picasso, il est symptomatique puisque c'est un des dessinateurs académiques les plus aboutis qui soit. C'est-à-dire que dès que vous commencez à regarder ses dessins préparatoires, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de l'anatomie qui est incroyable. Je veux dire, tu vois, ses dessins typiquement avec Guernica, on l'a souvent vu avec un taureau qui a été déformé en façon surréaliste. Avant ça, il en a dessiné, et c'est des taureaux, il en a dessiné des centaines qui sont évidemment très fidèles à la réalité.
Surtout mais... que c'est la phase qu'on connaît de Picasso, c'est pas sa première phase, il a eu d'autres trucs. Mais ce n'est pas fin de la peinture.
Non, mais c'est important parce que de rappeler que effectivement la création artistique passe par ces phases d'itération, tu vois. Nous on voit le résultat fini, mais on peut deviner à force de avec l'habitude, je trouve qu'on commence à deviner un petit peu les couches successives et on commence à ressentir des trucs et quand on voit un travail qui est aussi abouti, on sent en fait tout ce processus d'itération qui amène à cette chose qui est très léchée. C'est pour ça que le feeling de l'arme, il est parfaitement dosé. Le feeling du coup d'épée, il marche bien. Le dash, tu as cette petite glissade à la fin. Ils ont dû le tester des milliers de fois avant d'y arriver. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui fait que le jeu vidéo, c'est aussi joli et c'est aussi intéressant à analyser. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent à se souvenir de ça quand ils jouent à des jeux, que ça n'est pas arrivé d'un coup. Ouais, tu vois, ils se sont pas dit, on va faire un jeu, ça va se passer comme si. Tout le monde, au départ, même les gens qui font Call of Duty, même les gens qui font Uncharted ou The Last of Us, ils ont une idée de départ et petit à petit, ils vont, on va dire, tâtonner avant d'arriver vraiment au résultat final.
Et c'est sans compter sur toutes les choses qu'ils ont dû enlever
oui,
et
jeter,
qu'on n'a pas vu, dont totalement. On n'a pas conscience, tu vois, parce que ça aussi, ça fait partie du processus. En fait, de se dire, bah non, en fait, cette feature, elle va un peu parasiter vraiment ce qu'on veut faire, notre intention, donc on la gère, et ça, c'est des choses sur lesquelles ils avaient pu itérer avant, et ça fait partie du processus. Et ça, on a tendance à l'oublier.
Et ça fait partie du coût, quoi. C'est, c'est toute la, tout ce qui coûte du travail, tout ce qui coûte du temps, mais qui ne se retrouve pas dans le produit final. Ça, c'est l'espèce de tragédie de la création, quoi.
Mais ça fait partie aussi, du coup, de. Tu vois, c'est rigolo parce qu'il en parle. Elle est très courte, mais il arrive à dire beaucoup de choses. Hein. Je suis en train de me rendre compte, ce petit Akash Takar, là. Il explique que justement, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Lui, ouais, il dit, il y a des sons, il en a fait plus de 600 au final, il n'y en a que la moitié qui ont été pris dans le jeu final. Mais il dit, mais sans ça, on n'aurait pas obtenu ce résultat-là. Et donc, le principe d'itérer, c'est parce que tu as un objectif de qualité. Tu veux atteindre un certain niveau de qualité de jeu que tu vas fixer souvent lors de la phase de prototypage, etc. En disant, bah, je veux que mon jeu il ressemble à ça. C'est pour ça que la direction artistique, elle était finalement établi dans les très grandes lignes assez tôt. Après, par contre, ben, tous les petits détails, là, ça va demander énormément de travail, de répétition, de tests, d'essais, jusqu'à trouver la formule qui te correspond. Et évidemment, c'est qu'à un instant T, puisque ben, 2 ans plus tard, on s'imagine que là, tu vois, ils bossent sur un jeu qui a l'air d'être plutôt en 3D, où on voyait un perso qui se déplaçait très très vite là, sur des rollers. Donc, ta sensibilité, elle évolue aussi au fur et à mesure que tu crées ton jeu, quoi.
Oui, et comme on se le disait, nous, ce qu'on en a un petit peu vraiment retiré d'Hyper Light Drifter, c'est très émotionnel, c'est vraiment, et on l'a dit, ça se retrouve vraiment sur les représentations graphiques, mais aussi sur les phases de gameplay qui sont autant dans le combat que dans l'exploration, que dans la contemplation, et ça, c'est des choses dont ils se sont rendus compte, tu vois, vraiment pendant le développement, et si le Kickstarter avait seulement été 27 000 $, bah, Hyper Light Drifter, ça aurait peut-être été soit juste un vrai Zelda-like, entre guillemets, pour le coup, ou juste un jeu de combat, mais il n'y aurait pas eu, en fait, toute cette cohérence entre les différents plans.
Mais c'est marrant, du coup, parce que quand on en discutait pendant la préparation, on se disait, aujourd'hui, il nous marque un peu moins qu'à l'époque, mais parce que, bah, justement, il y a eu beaucoup, encore plus de jeux indés, comme ça, qui sont sortis. Alors, évidemment, je pense à Hollow Knight, dont on a déjà parlé dans l'émission, qui ont encore, à chaque fois, qui montent les standards, en fait, qui montent les exigences et qui montent la barre, tout simplement, et qui font que, bah, oui, forcément, j'imagine que si on découvre aujourd'hui Hyper Light Drifter, alors je pense que c'est toujours un très grand jeu, je pense qu'il est toujours quand même assez pertinent, assez moderne et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que si vous avez déjà joué à Hollow Knight, peut-être que vous serez moins surpris que nous, on l'a été, même en 2016. Et vraiment, quand on en discutait, je me disais, putain, c'était 2016, quoi. C'est-à-dire, c'était l'époque d'Inside, c'est tous des jeux comme ça. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses pendant depuis tous les grands titres qui sont sortis et dont on a déjà même un peu parlé dans cette émission, quoi.
C'est le cas, hein, parce que du coup, l'accélération des sorties de jeux, c'est à partir de 2013 sur Steam, hein, où on passait de 1000, 2000, ouais. Maintenant on est à 10 000 jeux par an. Et bah, du coup, entre 2016 et 2019, ce qui s'est passé, c'est à peu près 25-26 000 jeux.
Ouais.
Donc, évidemment, sur ces 25-26 000 jeux, il y en a une énorme majorité qui sont pas bons. Par contre, dans les jeux qui sont très cool et qu'on a retenu, bah en fait on se rend compte que le jeu vidéo accélère, tu vois. Et je trouve que dans son évolution globale, il accélère ces dernières années, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a ce, en plus comme le rythme il est effréné, vu que tu vois, on a même plus le temps de respirer, on passe d'un
Outer
Wilds, on enchaîne là depuis le mois de septembre, on a eu les Untitled Goose Game, il y a eu Outerlands, il y a eu l'arrivée donc des jeux de l'Apple Arcade, on l'a dit, il y a eu tout un tas de grosses sorties, Control, etc. Enfin, ça n'arrête pas. Ouais, ça n'arrête pas. Tu vois, c'est vraiment là, on est dans un enchaînement de jeux qui sont tous très bons.
En fait.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a plein de directions qui sont en train d'être mises en place et ça ne s'arrête pas. Donc, c'est devenu impossible à suivre l'évolution globale. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les développeurs de jeux vidéo, eux, ne jouent quasiment plus. C'est le grand paradoxe des créateurs. Ils peuvent plus autant jouer. Donc, forcément, leurs références vont toujours être un peu en décalage avec ce que nous, au moment où on voit le jeu, eux, ils sont un peu décalés. C'est-à-dire que, ben, tu vois, ils ont pas forcément, ça se trouve, ils ont pas joué à Hollow Knight. Tu vois, ils ont peut-être pas eu le temps parce qu'ils devaient être avoir le nez dans le guidon et du coup ils ont pas eu le temps d'y jouer. Enfin, je donne un exemple, mais en fait je crois qu'en termes de chronologie ça pouvait pas coller, ça marchait pas, mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas eu le temps de jouer à d'autres choses, et donc bah, pour le prochain jeu ils vont avoir une nouvelle culture, un nouveau truc, et le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, c'est qu'avant il y avait que quelques créateurs et donc les choses avançaient de manière encore assez compréhensible. Maintenant il y en a tellement, avec des gens qui arrivent de nulle part et qui disent hey, salut, nous on va faire Dead Cell, hey, salut, nous on va faire Hollow Knight, tu vois, salut, on va faire Outer Wilds, tu vois, il y a plein de jeux comme ça qui arrivent et qui, bah, comme tu dis, déplacent un peu les limites de ce qu'on pensait être possible et qui nous montrent que le jeu vidéo, bah, il est encore extrêmement loin d'avoir montré tout ce qu'il avait à faire.
Exactement, on ne s'en lasse pas, et ça tombe bien, on a de la chance, parce qu'on fait, on fait une émission dessus, c'est ça qui est cool.
Bah oui, oui, non, mais là, là-dessus, nous, on est peinards, a priori, au niveau du nombre de jeux, tu vois, au début, je pense qu'on pouvait avoir une certaine peur, mais à force qu'on se rende compte de l'intérêt, de ce qu'on a envie de mettre dans l'émission, je me rends compte qu'on peut parler de... Plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on peut étendre, tu vois, les jeux dont on pourrait parler dans l'émission, donc bah moi, ça me fait super plaisir.
Bah c'est pour ça du coup, ouais, je pense que c'était important qu'on l'aborde dans l'émission, ce jeu, et qu'on en parle, parce que ouais, c'est un jeu qui représente bien, ouais, c'est moi ce que j'appelle un peu la deuxième vague, la deuxième génération des indés. Il est sorti en même temps, je parlais d'Inside tout à l'heure, bah voilà, Limbo, Inside, c'est ces quatre années qui font que le jeu vidéo indépendant a vraiment pris vraiment la confiance, et on arrive avec des jeux comme ça, et ouais, moi je revenais sur 2016, enfin c'était fou, il y avait Darkest Dungeon, il y avait
The Witness aussi.
Il y avait The Witness, voilà, exactement, aussi, qui est sorti en 2016, donc voilà, il y a toute cette seconde génération, et voilà, qui a marqué cette espèce de... ce qu'on appelle un peu les triple I, c'est-à-dire c'est un peu un blockbuster du jeu vidéo indépendant, même s'il n'avait pas un nom qui était rattaché à lui, il a quand même su se faire une place, et voilà, j'étais content de pouvoir en reparler, et même ça m'a fait plaisir même d'y rejouer, parce que de retrouver cette ambiance un peu particulière, je trouve que le jeu il a une teinte qui est assez unique en fait.
Bah, c'est difficile de trouver des jeux qui vont te placer dans un mood, dans une ambiance, une humeur similaire. Hein. C'est vraiment, il arrive quand même à faire quelque chose. C'est ça qui est rigolo dans le choix de ce jeu-là pour l'épisode, c'est que d'un point de vue, tu vois, très froid, mécanique, pragmatique, le jeu n'apporte rien au Schmilblick global. Tu vois, c'est-à-dire que bah, c'est très un énième jeu en pixel art d'action RPG. On en voit des caisses, on en a tout le tour du ventre. Par contre, il a une approche qui est extrêmement personnelle. Il va avoir un soin sur l'esthétique, sur le game feel, sur des choses comme ça qui le rendent vraiment unique. Et c'est pour ça, je trouve que, comme tu le dis, c'est intéressant d'en reparler. Parce que finalement, quand il avait été annoncé, moi, c'est ça que je m'étais dit dans la préparation, c'est qu'en 2013, tu vois, c'était encore... c'était un entre-deux. C'est la période où on est actuellement. C'est-à-dire que c'était la fin de la PS360 et c'était le moment où les Xbox One et PS4 allaient sortir. Donc, on avait encore une espèce d'incertitude sur ce qu'allait devenir le jeu indépendant, et donc c'est pour ça que c'est très juste de parler de deuxième génération, puisque la première génération, c'est Castle Crasher, Binding of Isaac, Braid, etc., les jeux du Xbox Live Arcade, pouf, changement de génération de console, et changement également d'ambition, d'attente de la part du public, et des créateurs qui se lâchent complètement. Depuis 2013 et le début de la PlayStation 4, les jeux indépendants, prendre la confiance, je pense que c'est le bon terme. Tu vois, ils se sont dit, ben, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller exprimer tout ce qu'on veut, on peut aller très loin dans du personnel, dans de l'autobiographique, dans de l'émotion, dans du gore, dans ce que tu veux, et on va continuer d'explorer tout cet immense truc qu'on appelle le jeu vidéo pour voir jusqu'où on peut l'amener. Sachant et jusqu'à présent,
ben, sachant qu'en 2013, il y avait un autre Kickstarter d'un petit jeu qui s'appelle Undertale.
Ouais.
Voilà, qui lui aussi est sorti un petit peu après. C'est quelle année après,
2015.
2015. Ouais. Peut-être qu'on en parlera dans Fin du Game. C'est peut-être possible.
Peut-être qu'un jour, oui. Bah tiens, quand il y aura Deltarune qui va commencer à revenir, peut-être que ça sera le bon moment de reparler d'Undertale, pourquoi pas.
On verra ça. Je crois qu'on a fait le tour. Merci messieurs, encore une fois pour cette émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, un mardi sur deux. On espère que l'émission vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre les petites notes dans vos applis pour qu'on puisse monter encore dans le top, même si bon, ça commence à être compliqué.
C'est vrai qu'on est très bien. Sur Spotify, on est toujours aussi bien placé.
Oui, toujours aussi bien placé.
Parce que bon, iTunes, c'est vraiment, tu vois, du jour au lendemain, on peut retomber dans les limbes ou complètement disparaître. Mais par contre, tout ce qui est notation, on est toujours avec un petit 5 étoiles qui me fait très plaisir.
La concu est dans le rétro. Non mais voilà, c'est franchement ça fait hyper plaisir, on en est vraiment fiers, donc c'est pour ça qu'on en joue, mais parce que voilà, ça nous fait vraiment hyper plaisir. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je le répète une petite dernière fois, on se retrouve donc dans 3 semaines pour le nouvel épisode de Fin du Game. Si vous voulez savoir de quoi on va parler, vous nous rejoignez sur le Discord, il y a le lien dans la description. On remercie une nouvelle fois Third Edition pour leur sponsoring, et puis bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le Patreon si vous voulez qu'on soit content et qu'on puisse manger, payer notre loyer, c'est vachement bien.
Parler de Nier Automata.
C'est devenu le running gag. Le jour où on va le faire, on va être
foutu. Ce sera la fin du game.
Il y aura un trou noir, tu sais, qui va remplacer l'émission, et on vous laissera comme ça dans l'expectative pendant quelques temps.
Très bien. Et bah écoutez, merci beaucoup, et puis à bientôt pour un nouvel épisode.
Salut.
Ciao.